Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Busuma Mwamba.
Une maladie inconnue a déjà tué 15 personnes en 2 mois dans la commune rurale de Mangina à Beni. En attendant le résultat des échantillons envoyés à Goma et à Kinshasa, le médecin chef de zone appelle à l'observance des règles d'hygiène. Élection RDC. La Fondation Katangaise évoque des agitations, notamment autour des candidatures à la présidentielle. Son président demande aux autorités de Kinshasa de n'écarter personne à ce scrutin. Et puis, des cas d'incendie se multiplient actuellement à Bounia, alors que la ville ne dispose pas de véhicules anti-incendie. C'est le dossier que nous propose José Deschartes Menga, à suivre en seconde partie de ce journal. Madame, messieurs, bonjour. Santé pour commencer. Une maladie jusque-là inconnue, caractérisée par la diarrhée, la fièvre et les vomissements, est observée depuis 2 mois dans la commune rurale de Mangina. C'est environ 30 kilomètres au sud-ouest de Béniville. Nous sommes bien au nord Kivu. Selon le médecin chef de zone de santé de Mabalako Mangina, ces 2 dernières semaines, 15 morts ont été enregistrées sur les 26 cas identifiés. Le docteur Germain Kamaliro annonce l'envoi à Goma et à Kinshasa des échantillons prélevés pour analyse et appelle la population à observer les mesures d'hygiène. Docteur Germain Kamaliro, au micro de Martial Papimukeba.
Depuis le mois de mai, il y a un phénomène qui a tenté de frapper la population, qui se caractérise par l'émission de sel liquide et vomissement. Puis s'ensuit la mort par soit épistaxie, soit la fièvre. Ça fait au moins 2 semaines que nous avons vraiment constaté qu'il y a une flambée des cas. Jusque-là, nous comptons autour de 15 morts sur les 26 cas identifiés. Pour le moment, c'est d'abord localisé dans la commune rurale de Mangina. Tous les malades sont traités au niveau du centre de santé de référence de Mangina. Et on a aussi noté quelques cas sporadiques dans d'autres structures comme l'aire de santé Linzo qui a référé à Mangodomu. Ce n'est pas vraiment la fièvre hémorragique. Parce que la fièvre hémorragique, il y a les saignements dans tous les orifices. Comme les échantillons sont déjà en train d'être envoyés au niveau des laboratoires, au niveau de Goma et Kinshasa, demain. C'est vrai que les résidents qui peuvent nous confirmer qu'il y a un problème. Sinon, à la population de garder d'abord le calme et d'observer les mesures d'hygiène. Le lavage de mains systématique. Il faut aussi que la population se réserve de se salir main à main.
Et puis ce SOS des agriculteurs d'une dizaine de villages de la chefferie de Mazangoulé, territoire de Louboudi. Nous sommes dans la province du Lualaba. Depuis 3 mois, ils ne savent pas accéder à leur champ de maïs à cause de la présence d'un éléphant en divagation dans la zone. Ces agriculteurs craignent de perdre toute leur récolte et ce pachyderme a déjà causé des dégâts humains dans cette chefferie. Denise Maéo-Moissi nous raconte.
Nous avons cultivé du maïs, c'est notre seule source de revenus. Le maïs a déjà atteint la maturité, mais impossible pour nous d'aller le récolter. Un éléphant a élu domicile dans la zone et agresse tout celui qui s'hasarde à y aller. Déclaration du représentant des agriculteurs de la chefferie de Mazangoulé dans le territoire de Louboudi. Ce sont des dizaines d'agriculteurs de 15 villages dont le mouvement est réduit. Au mois de mai dernier, une femme qui se rendait au champ a été tuée par cet éléphant. Ces agriculteurs ont une autre inquiétude. C'est le fait de brousse et ce, malgré l'interdiction de cette pratique par les autorités politico-administratives. Déjà, près de 20% des récoltes de maïs de la chefferie Mazangoulé sont parties en fumée. L'administrateur du territoire de Louboudi rassure que le refoulement de cet éléphant ainsi que d'autres pachydermes se prépare au niveau de l'ICCN. Ce que confirme le directeur provincial de l'ICCN sans donner des précisions sur la date du début de cette opération. Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Kapi.
Rendons-nous à Kananga où nous apprenons qu'un militaire commis à la gare de la résidence du gouverneur du Kasaï central a été retrouvé mort hier dimanche. La cause de sa mort n'est pas encore officiellement connue. L'auditeur militaire supérieur garnison de Kananga dit attendre les résultats de l'enquête pour en savoir davantage. Le soldat décédé a été inhumé hier même. Plus de détails avec Joël Bofengo.
L'auditeur militaire supérieur garnison de Kananga dit ignorer les circonstances exactes de la mort du militaire. Le lieutenant-colonel Jean-Blaise Boamoulundo, qui s'est rendu sur place dimanche, indique cependant que selon les premières constatations, le soldat est mort par balle. Il privilégie la thèse du suicide, mais il précise que c'est au terme de l'enquête que l'on saura s'il s'agit bien d'un suicide ou d'un meurtre. Si c'est quelqu'un d'autre qui l'a tué, nous devons savoir pourquoi, souligne le lieutenant-colonel Jean-Blaise Boamoulundo. L'auditeur des garnisons et son substitut ont été dépêchés ce lundi matin à la résidence du gouverneur pour poursuivre l'enquête et interroger les autres gardes. Dans un communiqué publié dimanche, le cabinet du gouverneur de province soutient que le soldat s'est suicidé. Le document fait savoir que le militaire n'a probablement pas, je cite, « digéré une information médicale relative à son bulletin de santé ». Fin de citation. Le communiqué déplore un incident malheureux. La mort du soldat intervient alors que le gouverneur de province Denis Kambayi est à Kinshasa. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
Province du Sankoro, les populations des deux localités vivent dans la forêt depuis quelques jours. C'est précisément en territoire de Katakokombe. Les villages Oanda et Yokalondo, secteur de Ngando, groupement d'Ikoka. Selon des sources à Katakokombe, des individus munis d'armes à feu venus de Kibombo dans la province voisine de Maniema ont envahi ces deux localités afin d'y occuper les étangs des poissons. L'on dénombre des blessés par balles, des maisons incendiées et le pillage de plusieurs biens. L'administrateur de Katakokombe qui déplore la récurrence de ces attaques en appelle à l'intervention des autorités du gouvernement central et provincial. François Momindo Wetchingolo explique au téléphone de Chris Mukand.
Les problèmes peuvent être résolus à trois niveaux de mon point de vue. Il faut que le ministère national de l'Intérieur et de Sécurité convoque les deux gouverneurs. Nous faisons une tripartite. Comme ça, les deux gouverneurs viennent avec leur ministre de l'Intérieur, les administrateurs du territoire, les chefs de secteur et poissons, et puis nous faisons la reconnaissance du lieu pour que tout le monde arrive au constat que c'est une provocation que de traverser une frontière naturelle. La carte de la RDC fait à foi. Deuxième niveau de solution, c'est doter ma police des moyens conséquents pour que nous puissions mettre un commissariat entre la rivière Lomami et l'État, de sorte qu'à ce moment-là, ma population pourra travailler en quiétude. Étant donné que nous avons déjà perdu des vies humaines, qu'il y a beaucoup de blessés graves dont certains sont devenus aujourd'hui inaptes, et qu'il y a beaucoup de pertes de matériel et des incendies de maisons, nous devons traiter de manière en justice pour le paiement des dommages et intérêts dus au préjudice qu'il nous a fait subir.
Je vous le disais en titre, la Fondation Katangaise appelle à la préservation de la paix et l'unité dans l'ex-province du Katanga. En cette période préélectorale, elle dit constater beaucoup d'agitation, notamment autour des candidatures à l'élection présidentielle. Raphaël Moututa, président de la Fondation Katangaise, demande aux autorités de Kinshasa de mettre de l'eau dans leur vin afin de n'écarter personne à ce scrutin. Raphaël Moututa, au micro de Denise Maéo.
Pour nous, les élections, c'est un grand rendez-vous. C'est une grande fête pour les Katangais, mais nous voyons qu'il y a des enfants qui sont absents, tels que Moïse Katumbi Tchapwe, qui est encore à l'extérieur. Nous voulons que Moïse puisse venir et rencontrer son frère Joseph Kabila, qui se rencontre, qu'on se concerte autour de la Fondation Katangaise, pour que lui aussi puisse avoir la chance de conquérir le pouvoir.
Derrière tout ça, quel est l'objectif que vous poursuivez?
Non, l'objectif c'est d'abord consolider la paix, et quand il y a la paix, nous allons aussi garantir l'unité, parce que quand vous avez des enfants et qu'ils sont dans l'ordre dispersé, vous n'aurez pas la paix. Nous voulons d'abord l'unité de tous les Katangais. Moïse, c'est un Congolais, c'est un Katangais. Nous voulons qu'il rentre chez lui au pays et qu'il parle le même langage avec ses frères et qu'il puisse avoir aussi les mêmes chances de conquérir le pouvoir.
Parlant justement de la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle, notez que la plateforme Ensemble pour le changement dans le Grand Katanga annonce avoir collecté plus de 60 000 dollars américains depuis le début de l'opération de récolte afin de payer la caution pour la candidature de l'ex-gouverneur du Katanga. Ce montant a été récolté à travers le Grand Katanga, information livrée aux jeunes de cette plateforme par leur président national samedi à Lubumbashi. C'était au cours de la manifestation qui s'est déroulée dans la commune de la Kenya. D'après le président de la jeunesse de Ensemble dans l'ex-Katanga, la collecte est volontaire et l'objectif est d'atteindre les 100 000 dollars américains exigés par la CENI pour le dépôt des candidatures à la présidentielle. Georges Mawine en parle au micro de Paulin Munanga.
En ce qui concerne cette opération, depuis qu'on a lancé à Kinshasa, au niveau de la province du Katanga, nous avions déjà récolté 52 225 dollars en avance. Et M. Ndala, quand il a quitté Goma, on a organisé une cérémonie à son honneur dans la commune de la Kenya, où nous avions fait 6 234 dollars, si je ne me trompe pas. Et donc, comprenez que l'opération continue. Déjà, avec les statistiques que j'ai maintenant, au moment où je suis en train de parler, nous sommes déjà à plus de 60 000 dollars. rien que pour la province du Katanga. Cet argent servira à soutenir la candidature de notre candidat, Moïse Katumbi Tshapwe. Vous savez que ce sont les mamas des marchés qui s'est cotisé, et vous allez suivre les images parce qu'il y avait la presse. Ce sont les paysans, ce sont les cordonniers qui venaient donner leurs 2 dollars, 1 dollar. Il y a ceux-là qui donnaient 1000 dollars, ceux-là qui donnaient 500 dollars. Et c'est le bas peuple qui s'est organisé pour montrer à la communauté tant nationale qu'internationale que le peuple au niveau de la province du Katanga souhaite que Moïse soit leur candidat.
Pendant ce temps, la ville de Guémena, dans le sud Ubangi, est en effervescence dans l'attente de l'arrivée demain mardi de Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du parti MLC qui rentre au pays. Les fédérations du MLC Nord-Équateur ont dépêché leur délégation à Guémena pour réserver un accueil chaleureux au sénateur Jean-Pierre Bemba. Les autorités provinciales du sud Ubangi ont pris des mesures sécuritaires pour encadrer les militants du MLC pendant cet événement. Dominique Wolombi nous en parle.
Jean-Pierre Bemba, qui rentre au pays après avoir purgé 10 ans de prison à la Cour pénale internationale, a choisi de transiter par Guémena, sa ville natale, et les bastions du MLC sont partis. Il doit d'abord se recueillir devant la tombe de son père, Jeannot Bemba Saolona, décédé alors qu'il était en détention à La Haye. Tout un devoir pour lui en tant que successeur de son père dans la famille, avant de gagner mercredi Kinshasa pour son combat politique. Dans cette attente, la ville de Guémena est en effervescence depuis ce week-end. Des militants du MLC circulent dans les différentes artères avec des drapeaux du parti accrochés à leurs motos. Les drapeaux du MLC sont aussi déployés partout à travers la ville pour accueillir l'enfant du sud Ubangi. Les fédérations du MLC ont dépêché leur délégation à Guémena, où sont déjà arrivées celles du nord Ubangi et de la Mongala. Celle de Kinshasa est attendue. Les autorités sécuritaires du sud Ubangi ont pris des dispositions pour encadrer cet événement. Le comité provincial de sécurité a décidé le déploiement des policiers et des militaires à travers la ville de Guémena, non seulement pour assurer la sécurité de Jean-Pierre Bemba, mais aussi pour encadrer les militants du MLC. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangé, Radio Okapi.
Direction l'Ituri. 10 cas de peste bubonique ont été notifiés dans la zone de santé de Réti, en territoire de Djougou, en ce mois de juillet. Dans une déclaration faite à la presse samedi, le médecin-chef de division provinciale de la santé indique que parmi les 10 cas, on note un décès. Docteur Louis Choulo affirme cependant qu'avec le concours des partenaires, la situation est sous contrôle. Il appelle ainsi les habitants de la région à assainir leur milieu de vie proche et de signaler tout cas pour éviter la contamination. Docteur Louis Choulo, au micro de Sadiq et Aboubakar.
La division provinciale de santé a notifié à travers la zone de santé de Réti depuis le début du mois de juillet 10 cas de peste bubonique. Qui dit peste bubonique, c'est les cas confirmés. Nous avons prélevé un échantillon pour envoyer au labo. On a signalé un cas de décès sur les 10 jusque-là, mais les 9 ont été sauvés et guéris. Et par rapport à ces cas, nous avons enregistré tous les cas contacts autour de ceux qui ont développé la maladie pour les soumettre sous traitement. Le temps qu'on ne soigne pas le cas de peste bubonique, ça peut passer à la forme pulmonaire. Comme signe les malades tous, il peut contaminer les autres. Et dès que la population détecte qu'il y a la mort en cascade des rats, ça signifie qu'il y a un problème. Pour la prévention, nous invitons les ménages, toute la communauté, à respecter les mesures simples. L'assainissement du milieu, le désherbage autour des domiciles, dormir sur les lits. En cas d'une maladie qu'on ne connaît pas, il faut se présenter le plus tôt dans une structure la plus proche.
Dans la province du Haut-Touélé, la délégation envoyée lundi dernier dans le territoire de Dungu pour le lancement de l'opération d'identification des Mbororo éprouve d'énormes difficultés pour remplir sa mission. Nous sommes à 780 km au nord-est de Kisangani. Selon la société civile locale, outre l'effectif minime de l'équipe d'identification, celle-ci manque des moyens logistiques et financiers conséquents pour atteindre ces éleveurs nomades Mbororo et leurs cheptels disséminés dans la grande savane de la région. Godlive Omo dont nous en dit plus.
Cette délégation d'une dizaine de personnes, notamment des militaires et policiers, ainsi que les agents de services spécialisés de la DGM et de l'ANER, devrait être appuyée par l'autorité territoriale, les chefs de groupement et la société civile. Cette mission, initiée par l'autorité provinciale, a pour objectif de sécuriser les opérations électorales en cours. Cependant, affirme la société civile, les moyens disponibles et aussi les timings de 15 jours fixés pour cette opération ne leur permettront pas d'accomplir leur mission. Et pourtant, selon les derniers rapports des autorités locales, les Mbororo occuperaient déjà 16 groupements sur le 24 que compte la chefferie de Wando dans le territoire de Dungu. Jacques Wami, président de la société civile de Dungu, propose à l'autorité compétente de se conformer aux dispositions prises depuis 2014 par la commission Mbororo avec l'appui de la MONUSCO pour une solution durable à cette situation qui constitue un danger permanent pour la population.
Il faudra avons disposé des moyens logistiques, financiers conséquents pour la mission. Il y a le problème de timing, il y a le problème de nombre de hommes qu'il faut pour ce travail. Mais malheureusement, à notre surprise, aucun paramètre n'a été mis sur pied.
Notez que cette mission d'identification d'Imbororo devrait permettre au gouvernement congolais de connaître le nombre exact de ses éleveurs, leurs dépendants ainsi que leurs cheptels. Kisangani, Godlivo Mondo, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Les Zimbabwéens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur président, leurs députés et leurs conseillers municipaux pour la première fois depuis le départ forcé de Robert Mugabe au pouvoir pendant près de 4 décennies, allais-je dire. Un total de 23 candidats, un record, sont en lice pour la présidentielle, mais la course se joue entre l'actuel président Emmerson Mnangagwa, patron de la ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1980, et l'opposant Nelson Chamisa, leader du mouvement pour le changement démocratique MDC. Entre-temps, au Mali, l'heure est au dépouillement et à la compilation des résultats après le premier tour de la présidentielle organisée hier. 24 candidats en lice, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a eu quelques incidents dans la journée dans des localités du centre et du nord, mais le vote s'est déroulé normalement et dans le calme dans les grandes villes du pays. En Indonésie, nous apprenons que plus de 500 randonneurs et leurs guides, parmi lesquels des étrangers, sont bloqués ce lundi au mont Rinjani, site touristique populaire, au lendemain d'un puissant séisme meurtrier. Le séisme a fait au moins 16 morts et plus de 160 blessés. Des centaines de maisons ont été détruites, provoquant des scènes de panique. Les habitants, comme les occupants des hôtels, s'étant précipités à l'extérieur.